لما موتنا، جوعنا، عطشنا، دمرنا، داعش سرطان. خلي العالم كله يسمع، داعش سرطان، أبو بكر البغدادي سرطان.
Salut, ici Ziad Malouf, vous écoutez l'Atelier des médias. Laurent van der Stockt, Alvaro Canovas et Lorenzo Meloni sont tous trois photojournalistes. Entre octobre 2016 et juillet 2017, ils ont couvert la bataille de Mossoul. Elle opposait différentes forces gouvernementales et milices irakiennes au groupe État islamique qui contrôlait la seconde ville d'Irak depuis juin 2014. Cette année, le festival Visa pour l'image a choisi d'exposer le travail de ces trois professionnels. Aurore Lartigue de RFI a profité de cette occasion pour les interroger. La bataille de Mossoul dans l'objectif de trois photographes, c'est une émission d'Aurore Lartigue réalisée par Simon Decreux.
Mossoul, à l'extrême nord de l'Irak. C'est ici qu'en 2014, Abou Bakr al-Baghdadi a proclamé son califat. L'armée irakienne n'est parvenue à reprendre aux djihadistes que moins d'un quart de la ville, après deux mois de combats acharnés. Une lente reconquête, pied à pied, quartier par quartier. Aujourd'hui, c'est la bataille pour Al-Tamil.
Les troupes à pied vont s'engager en tête. Elles seront renforcées par un appui des blindés. On va s'engager frontalement pour nous emparer des positions de Daesh et finir par fouiller la zone.
Le bataillon Mossoul partira en tête. L'unité porte le nom de la ville qu'elle est venue libérer.
RFI.
Bonjour, je m'appelle Laurent van der Stockt, je suis photographe. J'ai une cinquantaine d'années et je suis photojournaliste et je couvre les conflits depuis les années 90. En fait, les forces irakiennes combattent les zones contrôlées par l'État islamique depuis plus de deux ans maintenant. C'est en fait une bataille qui est incessante. Ramadi, Fallujah, Tikrit ont été reprises. Mossoul était dans toute cette série de territoires à reprendre à Daesh, une plus symbolique que les autres. D'abord parce que c'est là que Baghdadi a fait son discours et proclamé l'existence de ce califat autoproclamé. Mais aussi parce que c'est la deuxième ville d'Irak. Très grande ville qui comptait 3 millions d'habitants avant l'arrivée de Daesh. Au moment où la bataille commence, il y a encore 1,5 million d'habitants dedans, d'ailleurs, ce qui est quand même une situation assez exceptionnelle dans l'histoire de l'Irak ou même plus au-delà de l'Irak. Il y a d'autres circonstances qui font que les journalistes sont plus intéressés à Mossoul qu'à d'autres villes. C'est aussi la nature de cet ennemi, l'État islamique, parce que les attentats à l'étranger. Donc le monde entier un petit peu avait les yeux rivés sur cette bataille.
A batalha para recuperar a cidade de Mossoul vai durar várias semanas, segundo a coligação internacional.
Alvaro Canovas, je travaille pour Match depuis presque 30 ans et je couvre essentiellement l'Afrique et le Moyen-Orient et plus récemment les révolutions arabes. J'ai couvert l'Irak, l'Afghanistan et là je suis retourné en Irak pour couvrir la bataille de Mossoul. Alors je suis arrivé à Mossoul dans les bagages de l'Eyes of One, qui sont les forces spéciales du Premier ministre, mais ça n'a pas été facile d'arriver là. Je suis arrivé là par des contacts, notamment des contacts qu'avaient les journalistes avec qui j'ai travaillé longtemps sur cette bataille qui est Véronique Robert qui est morte au mois de juin à Mossoul. Voilà, c'est, je suis arrivé à Mossoul littéralement dans les bagages de, du colonel Mohanet, qui était le, un des officiers commandants principaux de l'Eyes of One, qui a en grande partie, je sais pas si on peut dire libéré Mossoul, mais qui a été la force armée irakienne la plus importante dans la reprise de Mossoul.
Meloni, sono da Roma nel 1983, lavoro per l'agenzia fotografica Magnum.
Bonjour, je m'appelle Lorenzo Meloni, je suis né à Rome en 1983, je travaille à l'agence Magnum et cela fait 6 ans que je travaille sur le Moyen-Orient.
Ho cominciato nel 2012 a lavorare nel Kurdistan siriano, dove i primi gruppi islamisti.
Tout commence en 2012 au Kurdistan en Syrie. C'est là où j'ai suivi les premiers groupes islamistes et c'est là où j'ai constaté la naissance de l'État islamique. Donc j'étais en Libye, en Syrie. Donc si vous voulez, quelque part, Mossoul, c'était continuer naturellement sur ce parcours que j'avais déjà entamé. Du fait que cela fait 6 ans que je travaille au Moyen-Orient, j'ai quand même réussi à avoir des contacts, que ce soit au niveau politique ou avec d'autres journalistes. Donc c'est toujours vers eux que je me tourne pour prendre des contacts avant d'y aller sur le terrain.
Normalement, je cerco di evitare di lavorare con fixer o interpreti. Ho la fortuna di parlare un po' di arabo.
En fait, normalement, je ne travaille point avec des fixeurs ou des interprètes. J'ai la chance de pouvoir parler un peu d'arabe. Alors, par exemple, quand j'ai accompagné cette unité spéciale qu'on voit à Mossoul, j'ai passé des mois avec eux. Je les ai vus tous les jours au quotidien, également lors de leurs combats. Donc, c'est comme ça que j'ai fait.
Il y a 3 forces en Irak qui s'occupent de combattre Daesh. C'est l'armée, les milices chiites. La police fédérale, 4 d'ailleurs, avec les forces spéciales, ça fait 4. Les accès sont compliqués et bien entendu, il y a aussi un facteur de sécurité. C'est que, comment est-ce qu'on peut s'y prendre en essayant de couvrir la bataille de Fallujah et en ayant passé des journées, essayé de travailler avec l'armée et les milices. Je me suis rendu compte que c'était très compliqué, très difficile, très dangereux. C'est des gens qui partent très facilement des routes, qui sont assez peu organisés, assez peu professionnels, qui donc ne permettent pas vraiment d'être présents dans des conditions acceptables pendant des semaines. Parce qu'il ne s'agit pas juste d'être présent, il faut travailler en plus. Alors que les forces spéciales offrent autre chose. Elles sont beaucoup mieux organisées, elles sont entraînées, elles sont professionnelles. Et il se fait que je rencontre un major pendant la bataille de Fallujah qui m'autorise dans un premier temps à passer quelques jours avec eux. Et puis le rapport s'établit, une sorte d'entente et de respect, de confiance s'établit dans une guerre qui laisse peu de place à un observateur. Dans un sens très technique, à cause de la façon pratique dont les choses se passent. Pour continuer sur Fallujah de façon précise, les entours de Fallujah étaient extrêmement minés. Donc on peut pas envoyer des fantassins à pied, on peut pas non plus déployer des blindés sur un front. Il faut d'abord déminer, et donc l'attaque de la ville, le bastion de l'insurrection sunnite quand même en Irak, se fait en convoi, mais sur une ligne. C'est-à-dire que c'est une sorte de convoi de blindés avec en première ligne deux bulldozers et 2 tanks. Les 2 bulldozers pour faire exploser toutes les mines qui sont enterrées, et les tanks pour stopper les éventuelles voitures suicides. Donc toute cette configuration fait que c'est une colonne de voitures blindées et que donc bien entendu il n'y a pas d'espace pour quelqu'un à pied ou pour une sorte de visiteur ou d'observateur. Donc il faut ménager une place dans un de ces véhicules, mais si on veut être devant, si on veut voir ce qui se passe, ça veut dire qu'on est avec les gens qui se battent. Et les gens qui se battent, ils ont besoin de leur espace pour le faire. Donc on prend la place d'un combattant. Donc toutes ces circonstances font que, à la différence d'autres endroits ou d'autres guerres, l'espace alloué à un observateur ou un journaliste est réduit à sa plus simple expression. Et La confiance s'établit avec ce major qui il se fait qu'il est leader des avancées. Il est plus tard blessé, comme j'ai été moi-même beaucoup blessé, que je l'invite à aller voir des gens compétents en France pour se soigner, etc. Et juste avant le début de la bataille de Mossoul, quand le Premier ministre Abadi décide d'attaquer Mossoul, ce que les habitants de Mossoul attendaient depuis très longtemps, j'ai un coup de fil de ce major qui me dit viens à Bagdad, je ne comprends pas bien. Je pensais aller me diriger vers Mossoul au moment où il faudrait. Et en fait, il me dit non, viens à Bagdad, tu partiras avec nous depuis Bagdad et avec les troupes. Et en fait, je arrive à Bagdad et pratiquement, j'étais invité donc dans la base des forces spéciales en question, qu'il m'a fait visiter sur l'aéroport de Bagdad. Oui, il m'a montré mon MV. Il me dit voilà, alors je voilà mon MV, voilà le mien et voilà le tien. Il était juste derrière. Et pour l'anecdote d'ailleurs, je lui ai dit ça va pas du tout. Tu m'as mis un grillage devant la vitre blindée. Comment je vais faire pour faire des photos? Donc en clair, ça veut dire que dans un pays où, d'une manière générale, au-delà de l'Irak, les batailles militaires sont compliquées à couvrir parce que les États, les gouvernements ont toujours une bonne raison pour en limiter l'accès. La sécurité étant souvent le bon prétexte pour le faire. Non seulement j'étais dans une situation où, pour une fois, une bataille militaire allait être beaucoup plus accessible qu'à l'accoutumée, mais en plus dans un pays où c'est encore plus compliqué qu'ailleurs, en Irak. Je crois que je suis allé pour la première fois en Irak en 1991. Je sais un peu comment ça fonctionne dans ce pays. C'est plus compliqué qu'ailleurs. Il y a une culture, il y a une compréhension du journaliste. Dans l'esprit d'un Irakien, un journaliste, c'est un agent de l'État, c'est un fonctionnaire. Le journalisme indépendant est difficile à concevoir en Irak. Et donc je me suis retrouvé dans une situation complètement inattendue, c'est-à-dire dans une situation où, en général, on a du mal à travailler, dans un pays... En plus, dans un pays où on a en général du mal à travailler, à être dans une situation inverse, c'est-à-dire d'avoir beaucoup de temps pour pouvoir le faire, et avec les unités qui sont devant, ce qui permet d'observer quelque chose de plus intéressant que la bataille en elle-même. Si on veut bien comprendre une bataille et couvrir une guerre, c'est pas les gens qui tirent ou les bombes qui tombent, mais c'est les conséquences sur les civils. Être avec ces gens-là qui sont toujours devant et qui font la progression, en l'occurrence dans ce qui concerne Mossoul, de la progression dans une zone où les civils sont contrôlés par Daesh, c'est un point de vue à peu près optimal pour pouvoir observer ce qui se passe sur les civils.
À minuit, comme tous les jours depuis une semaine, l'artillerie lourde de l'armée irakienne entre en action. Sur la première ligne du front, un officier de liaison scrute l'horizon. Il détecte les mouvements suspects et transmet les coordonnées des cibles djihadistes. Ziad Nader est sous-officier d'infanterie.
Tous ceux qui nous aident sont des héros. Nous allons libérer Mossoul. Les combats sont rudes. Pour l'instant, nous avons surtout peur pour les civils de Mossoul.
Le quotidien est fait de... Il y a trois grandes périodes pour les hommes avec qui j'étais, parce que j'étais pas toujours avec le colonel Mohanet, mais j'étais la plupart du temps avec ces hommes. Soit ce sont des périodes de combat, d'avancée, qui sont assez courtes. Soit ce sont des périodes de sécurisation des endroits, le temps de revoir la stratégie pour l'étape suivante, et aussi des étapes de off, enfin de vacances. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces soldats combattaient chez eux et qu'il y avait des roulements tous les 15 jours, et une partie du régiment rentrait chez eux dans des villes, voilà, à quelques centaines de kilomètres. Donc voilà, c'était rythmé par ces trois phases. Et la phase la plus, je dirais évidemment la plus intéressante, enfin la plus forte, était la phase de combat. Pendant les phases de combat, on avait un accès absolument incroyable à la ligne de front. Et on vivait complètement immergé avec les hommes du régiment. C'est-à-dire que on allait au combat avec eux, sécuriser avec eux, ensuite dormir avec eux, manger avec eux, dormir avec eux. Voilà, on était complètement intégré au bataillon. Comme jamais auparavant, je sais que ça a été dit par d'autres photographes, enfin les rares photographes qui ont pu avoir ces accès, des accès comme jamais on avait eu auparavant avec une force armée pendant une opération militaire.
Il quotidiano fondamentalmente la maggior parte dei giorni la guerra non riguarda l'azione.
Au quotidien, il est vrai que la plupart du temps, ce n'est pas des combats qu'on voit, c'est l'attente des ordres pour qu'on fasse quelque chose. Donc, la plupart du temps, j'étais avec ces hommes, ils passaient leur temps à boire du thé, avec la chicha. Donc, pendant la bataille de Mossoul, qui fut une des batailles les plus dures, il y a eu quand même des pertes, des amis, des gens avec qui j'avais passé beaucoup de temps, ont été blessés. Ensuite, il y a aussi la partie de conversation avec les combattants qui parlent de leur famille, ce désir de rentrer chez soi, de retrouver les siens.
La guerra è fatta soprattutto di lunghe attese. Puoi passare una giornata dietro un muro e niente succede. Questa diciamo è la grossa differenza tra chi non è stato in guerra e tra la percezione della guerra e quello che la guerra veramente.
Ce n'est pas l'action continue, au contraire, la guerre, ce sont des moments de grande attente, ce n'est pas des combats en continu. Et l'ayant vécu, c'est là où on voit la différence entre ceux qui ont connu la guerre et ceux qui n'ont pas connu. Ce qui est aussi important à dire, c'est qu'il existe un écart très important entre ces moments intenses de 2-3 heures de combat intense, puis des périodes de réflexion et d'attente qui peuvent durer des semaines.
Et là, pendant ce temps d'attente, qu'est-ce qui vous traverse l'esprit? Qu'est-ce qu'on se dit?
Normalement, durant...
Eh bien, pendant ces moments-là, normalement, c'est là où je prends le temps de réfléchir, comment continuer mon travail, de penser à la méthodologie pour pouvoir raconter cette histoire.
Ce sont des moments
très très importants, comment améliorer son travail,
et
on ne se rend pas compte, mais ce sont ces moments-là qui sont cruciaux, même si d'un point de vue photographique, ce ne sont pas les moments les plus visuels.
De jour, Mossoul Est est calme. Plus de 90% de ce côté de la ville a été libéré. Les forces spéciales irakiennes ont terminé leur mission depuis plusieurs jours. Au nord, l'armée irakienne, elle, a repris le contrôle de plusieurs quartiers cette semaine. Les forces spéciales affirment se donner 2 semaines de répit avant de lancer l'assaut sur la rive ouest de Mossoul. Mais cette pause pourrait être plus longue que prévu. Il ne suffit pas de pénétrer militairement dans une zone pour la contrôler entièrement. De nuit, les troupes font encore face à des attaques de djihadistes.
Donc il y a cette espèce de quotidien de vie en blindé, parce que les choses ne peuvent pas se faire à pied, pas avec un ennemi comme celui-là, dont les seules armes en fait sont des armes un peu improvisées comme les voitures suicides, mais qui sont terriblement dangereuses. Bien sûr, elles sont dangereuses et d'autres armes sont dangereuses, mais c'est une arme non traditionnelle. Ça veut dire qu'une armée normale professionnelle n'a pas de réponse appropriée et toute définie à ce genre d'armes. L'ensemble des circonstances fait que cette guerre se passe beaucoup à l'intérieur de voitures en blindés. Et donc, les journées peuvent être longues parfois, et en même temps dans un environnement assez spectaculaire. Parce que l'État islamique, et sur cette longue bataille de 9 mois, je crois que c'est entre autres 1000 voitures suicides. Ça veut dire 1000 fois une personne qui est capable de monter dans une voiture en sachant qu'elle va mourir dans le quart d'heure qui suit. C'est très particulier. Non seulement c'est un... À la différence d'Al-Qaïda, c'est un groupe qui a soudainement un territoire, ce qui n'existait pas avant, et des moyens financiers, dont les taxes sur les habitants, et une idéologie qui fabrique ce genre d'ennemis, de combattants, enfin de forces à combattre. Donc on était vraiment dans une situation particulière. Oui, particulière.
Courte pause dans l'atelier, restez avec nous. Atelier des médias. Nous sommes cette semaine au festival de photojournalisme Visa pour l'image. Cette année, 3 expositions étaient entièrement ou partiellement consacrées à la bataille de Mossoul en Irak.
Alors c'était une bataille différente d'abord par sa durée, 9 ou 10 mois. C'est une très très longue bataille. Par ses accès, les accès qu'on avait eu nous, mais avant tout, et au-delà de des avantages que nous, on a pu en tirer, par la symbolique de cette bataille, qui pour moi était la mère des batailles contre Daesh, c'est-à-dire la reprise de la plus grande ville tenue par l'État islamique, que ce soit en Irak ou en Syrie. L'endroit où Abou Bakr al-Baghdadi a, en quelque sorte, confirmé l'établissement du califat quelques jours après sa proclamation. Et puis, voilà, c'était une place forte, la plus grande ville sunnite du nord de l'Irak, aux mains de l'État islamique.
Ça, c'était la voix d'Alvaro Canovas, photographe pour le magazine Paris Match. Comme lui, Lorenzo Meloni de l'agence Magnum et Laurent van der Stock du Monde ont passé plusieurs semaines en compagnie notamment des forces spéciales irakiennes pour couvrir la bataille de Mossoul, une bataille d'un nouveau genre. Laurent van der Stock est au micro d'Aurore Lartigue qui signe ce reportage pour l'Atelier des médias.
En regardant vos photos, ce qui marque, c'est peut-être le regard des gens que vous avez réussi à capter, souvent des soldats. On voit souvent la peur, l'effroi, une certaine tension. On a souvent l'impression qu'on voit des gens qui se disent peut-être que bientôt je vais mourir. Est-ce que c'est une volonté ?
Prendre des photos, c'est un petit peu comme prendre des notes. Hein. C'est, y a pas trop de réflexion au moment des prises de vue. J'essaie de voir et d'être le plus présent possible, d'être le plus attentif à ce qui se passe autour de moi. Et j'emmagasine. J'imagine que mes collègues font la même chose. Parallèlement à ça, j'essaie d'être de comprendre au mieux la situation. Et ensuite, j'ai ce matériau-là qui est dans mes disques durs, les images, et je m'en sers, parce qu'on peut dire, on peut faire dire ce qu'on veut à une photo. Donc, c'est quand même un matériau particulier. Mais en fonction de la compréhension que j'ai de situation et du matériau dont je dispose, je vais piocher dedans en essayant d'être le plus cohérent, d'être le plus juste possible avec ce que j'ai compris de cette situation. Bonne photo, pas bonne photo, ça n'existe qu'en fonction de la destination de l'image. Ce à quoi elle va servir. Une photo, elle est pas bonne ou pas bonne. Une photo, elle remplit son rôle ou elle le remplit pas. En l'occurrence, j'étais là-bas pour Le Monde, un quotidien d'information générale. Et je sais exactement à quoi est destinée l'image du lendemain ou du jour où l'article va paraître. Et je vais dans cette matière que j'ai récoltée en réfléchissant à comment je soutiens au mieux l'article qui est publié ou comment je montre au mieux comment je relate au mieux ce que moi j'ai compris de cette situation. C'est donc surtout en fait un travail comme pour tous les journalistes, un travail d'abord de compréhension de la situation. Et ensuite, l'exercice est de le retransmettre le plus justement possible.
Alors, mon objectif, je dirais qu'avant un objectif photographique, j'ai un objectif journalistique. Je travaille pour Paris Match. Et donc, je n'ai pas un objectif photographique, esthétique, ou l'idée d'avoir une photo. Bien que ça me fasse plaisir si j'arrive à avoir une photo qui soit belle et en même temps très informative. Enfin, voilà, ça va dans l'intérêt de la publication. Mais l'idée, c'est surtout de raconter une séquence, une histoire. L'histoire d'un homme, l'histoire d'un bataillon, d'un peloton, d'une escouade. Enfin voilà, moi, je dois rapporter une histoire qui doit tenir sur 4, 6 ou 8 pages. Voilà, c'est pas juste une série de belles photos. Il faut avoir une histoire et pouvoir la raconter en photo et la compléter en texte. Je suis pas comme un photographe d'agence qui est là pour s'il ne travaille pas avec un journaliste, il n'est pas en commande pour un magazine, qui est là pour faire de l'image et la mieux possible. Moi, je suis là pour travailler en binôme avec un reporter et pour rapporter une histoire la plus complète possible sur un événement, un personnage, voilà, quelque chose qui va, à travers ça, expliquer l'histoire, le contexte à nos lecteurs.
En regardant vos photos, moi, ce qui m'est venu, sans être spécialiste, c'est que j'avais l'impression que vous aviez cherché à redonner une humanité, ou plutôt à faire que ces soldats ne soient pas un soldat, mais une personne. On voit beaucoup de... On voit par exemple un paramilitaire américain qui prend un blessé dans ses bras qui est tout bandé. Ou j'ai l'image de ce soldat irakien qui tient une petite fille dans ses bras et qui sourit. Ou de celui qui envoie des messages et sans doute à ses proches et qui a son arme posée à côté. Une intimité, finalement, le quotidien qui reprend le dessus, la vie normale. Est-ce que c'est une volonté ou est-ce que c'est le hasard?
Alors c'est un peu des deux. C'est une recherche, c'est-à-dire que quand on rentre dans l'intimité de tous ces gens qui font une guerre, que ce soit les civils, les militaires, enfin tous, l'expression qu'ils ont à un moment de peur, de joie, d'étonnement, d'horreur, et si on arrive à la capter, explique à elle seule cette expression. Pour la personne qui regarde la photo, donc pour le lecteur, l'état d'esprit, ça donne de la couleur. Et en fait, les expressions du visage, des yeux, de la bouche, donnent de la couleur et du son à la photo. Il faut presque anticiper l'action et la réaction pour être prêt à la photographier et à l'expliquer. Voilà, il s'est passé ci, voilà, il va se passer ça, voilà la situation. Il faut avoir un tout petit temps d'avance. Si possible, si on a la chance de pouvoir l'avoir pour, ou en tout cas être réactif à la nanoseconde près pour pouvoir capter cette expression qui sont plutôt des expressions de peur dans une guerre de peur, de désarroi, d'horreur, de tristesse. Voilà. Mais il faut pouvoir capter ce son muet qui va avec la photo et elle est d'autant plus forte et beaucoup plus forte. Si on a cet ensemble, elle est beaucoup plus forte. L'expression rajoute du bruit. L'expression rajoute du bruit. L'expression rajoute du bruit. L'expression rajoute du bruit.
Les camions d'aide humanitaire entrent dans le camp d'Al-Khazer. Rawa, mère de 4 enfants, récupère ses rations alimentaires. Nous la suivons sous sa tente. Il y a 2 jours encore, elle vivait au sein du califat autoproclamé.
Le soir, nous avons mis des somnifères dans le dîner des enfants. Nous voulions qu'ils s'endorment pour ne pas qu'ils pleurent pendant notre fuite. Nous nous sommes mis en route. Nous étions à quelques mètres à peine de Daesh. Et lorsque nous sommes parvenus à passer, c'était une délivrance.
Allora, c'è un concetto che mi interessa particolarmente, che è quello di liberazione.
Ce qui m'intéresse, à titre personnel, c'est ce concept de libération. On parle de la libération de quelqu'un, de quelque chose, et ces 4 villes ont été libérées, que ce soit par les révolutionnaires libyens ou l'armée libre syrienne, et puis après elles ont été reprises. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre ce qu'il y avait réellement derrière cette libération, parce que, somme toute, que reste-t-il? L'abandon, la destruction. C'est ça qui m'intéressait, de constater qu'en fin de compte, plus ça va. C'est-à-dire, les choses ne changent pas. On ne voit qu'une répétition d'événements en continu.
Oui, justement, quand on regarde vos photos, certaines de vos photos, on comprend que finalement, la guerre, c'est pas que du bruit, des armes qui tonnent dans des villes. C'est aussi toutes ces ruines et beaucoup de silence aussi. Est-ce que c'est une volonté de montrer le silence?
Quand j'ai commencé à photographier les conflits.
Je vous avoue que l'action en soi, ce n'est pas quelque chose qui me stimule énormément. Donc lorsque j'ai commencé à couvrir ces conflits, cela fait partie de ma façon de prendre des photos dès le début. Parce que j'avais compris que pendant ces longues périodes de silence et de réflexion, cela pouvait démontrer que les conflits, en fin de compte, sont très, très répétitifs. Et donc, ce faisant, avec cette façon de travailler, j'ai réussi à trouver cette nouvelle façon, cette nouvelle perspective.
Quand vous êtes en BD comme ça, que vous suivez toujours plus ou moins les mêmes hommes, est-ce que vous vous sentez partie prenante ou est-ce qu'en tout cas, forcément, vous avez envie quand même de voir la victoire
Alors j'ai envie de voir la victoire et je suis partie prenante. Alors c'est pas du tout journaliste et ça se dit pas, mais je m'en fous complètement. Je souhaitais ardemment leur victoire. Je me sentais pas comme un témoin... neutre dans cette affaire de Mossoul. J'avais des raisons presque aussi personnelles d'y être et de voir l'armée irakienne et ses hommes avec qui j'ai lié vraiment plus que des contacts, des liens assez forts. J'avais envie de les voir gagner. J'avais envie de les voir obtenir cette première grande victoire contre l'État islamique. J'avais des discussions avec d'autres camarades photographes qui ont aussi suivi l'ISOF sur le fait de respecter ou de ne pas respecter l'ennemi. Je sais que certains pensaient qu'il fallait respecter l'ennemi, c'est-à-dire l'État islamique, et d'autres, dont je faisais partie, ou en tout cas moi, je ne vais pas parler pour les autres, moi je ne les respectais pas. C'est pas parce que ces combattants étaient de bons combattants que je devais les respecter. Je pense que par ailleurs, ce qu'ils ont fait subir aux populations civiles, et je pense surtout à la population yézidi, chrétienne, kurde, et aux femmes et aux fillettes, parce qu'il faut, voilà, c'est quand même, faisait que je ne pouvais pas les respecter. Aussi féroce et soit son ennemi, on n'est pas obligé de. Cette bataille m'a prouvé, en tout cas m'a montré, qu'on n'était pas obligé de respecter son ennemi. Je ne sais pas si tu vas le mettre ça, mais.
Yo. Check, yeah. Yo. You came through town in an OG, looking like 1997. Won a few hearts with a bold speech, talking about let's go find the weapons, talking about let's be good again, and looking like all niggas ever wanted. Oh, big time bank hang wins again. We get a new nameplate, but they own the office. Feels so good when we go to auction. 4-year lease with a low deposit, get 100 loans so you can go to college. Your diploma's rolled into a polar sausage. Umpteen time we believe the theater, wished on a piece of meteor. Wide agreed against men they need a disguise, but here's a news flash: the media lies. Dang. You pent up, your little pinch of defense sucks. It was an early bird to the 33rd, but at certain words you tensed up. And I know cause I'm watching too close, like a type 2 dude with full with mad glucose. Hardcore goes there, I'm some cheer again. I've been curious since my significant section. I let shit look mysterious. Inside quakes could have shook the pyramid. Searching between all the cushioned areas, I warned you, I wish you took me serious. Deleterious and driving fast. I got coke and spirit, just to watch your back. And I'm paranoid till you could not relax. And I never holler, so don't holler back, nah.
Vous écoutez l'atelier des médias RFI. Nous sommes cette semaine avec trois photographes qui ont couvert la bataille de Mossoul en Irak. Trois photographes parmi lesquels Lorenzo Meloni qui répond aux questions d'Aurore Lartigue de RFI.
C'est stata veramente una battaglia dura e non trovo che abbia avuto particolari.
Ce fut une bataille extrêmement dure. Mais elle n'avait pas réellement de grandes différences entre d'autres combats auxquels j'ai assisté en Libye ou en Syrie. Mais il y a quand même une différence, à savoir, c'était la première fois que je me suis retrouvée à travailler directement avec une armée, contrairement à ce que j'ai fait dans d'autres endroits, c'est-à-dire être avec les milices et les rebelles.
Durante il conflitto, naturalmente, scegliendo o essendo obbligato.
Bien sûr, pendant les conflits, on est quelque part contraint à choisir de quelle partie nous sommes. Et il est vrai que lorsqu'on travaille de cette façon, on est prédisposé, on va dire, à être proche de ceux qui nous protègent, avec qui on travaille. Ceci est tout à fait normal et humain d'aller vers ces gens-là. Par contre, il ne faut pas oublier que le soldat, il est là pour tuer. C'est ça sa définition d'être. Donc il est difficile, d'autre part donc, de sympathiser réellement avec des gens qui ont ça comme but. Ceci étant,
Je pense qu'il est difficile de dire qui a raison. Je pense qu'une vision manichéenne de la situation est erronée. Lorsqu'on se penche sur les raisons pour lesquelles certaines personnes dans certains endroits au Moyen-Orient se sont alignées avec l'État islamique, il faut aussi concéder que cela fasse partie de leur histoire. C'est le résultat de leur histoire. Donc je réitère, il est très difficile de déterminer qui est le bon, qui est le mauvais. Et cette vision manichéenne ne reflète pas réellement la situation.
Ho cominciato a seguire Mosul giusto all'inizio dei combattimenti. Ho passato lì due mesi durante l'assedio, l'accerchiamento.
Donc j'étais présent pour les deux premiers mois de combat jusqu'à l'encerclement de la ville. Je suis parti, après je suis retourné lors des combats dans l'ancienne ville. Mais lors du moment de la libération, l'accès était devenu encore plus difficile. Il est vrai que même si d'un point de vue journalistique, il était important de couvrir la libération de la ville, j'estimais que d'un point de vue de photojournaliste, il était plus important pour moi de travailler dans les endroits déjà libérés plutôt que de me concentrer sur la libération de la ville.
En photo, vous montrez aussi quelque chose de l'ordre de l'absurdité de la guerre avec, je pense, à ces murs à Mossoul avec des dessins de personnages comme Bob l'éponge ou les Schtroumpfs qui sont recouverts par sans doute des membres de l'État islamique. Qu'est-ce que vous voulez montrer avec ce genre de photos?
La guerre est un acte extrême.
La guerre, c'est quelque chose d'extrême. Et souvent, les gens qui participent eux-mêmes ne comprennent pas réellement pourquoi ils sont là. Ils n'ont pas réellement compris les raisons. Donc l'interprétation du Coran par l'État islamique interdit la reproduction visuelle. Et on voit ici la photo que vous venez de mentionner, l'extrémisme dans l'extrémisme. C'est-à-dire, on perd complètement la raison de vouloir empêcher la reproduction des personnes de dessins animés. Mais je pense que ça, c'est la conséquence, c'est le produit de ce que c'est le conflit, où on voit des personnes exposées à la violence, et cette violence fait que leur comportement s'avoisine à la folie.
Rawa et sa famille ont vécu misérablement à Mossoul. Son mari, ancien policier, a failli être décapité par les djihadistes. Seul moyen pour sauver sa vie, remettre son arme, payer 2 000 $ et accepter de ne plus exercer aucun métier.
2 mois après l'arrivée de Daesh à Mossoul, un djihadiste m'a dit « Pourquoi tu ne portes pas de niqab ?» Je lui ai dit « Mon frère, je n'ai pas d'argent pour en acheter un. » Il m'a crié « C'est ton problème. »
À côté de Rawa, son frère, Abu Mahmoud, il travaillait dans un hôpital. Durant 2 ans, il a été le témoin impuissant des exactions des djihadistes, surtout à l'encontre des femmes yézidis.
Les yézidis étaient leurs esclaves sexuels, mais ils ne voulaient pas avoir d'enfants avec elles. Alors ils demandaient aux médecins, retenus à Mossoul, de les rendre stériles. Sous la contrainte, les médecins s'exécutaient.
Alvaro Canovas travaille pour Paris Match. Il est interrogé par Aurore Lartigue pour l'atelier des médias RFI.
Vous êtes resté jusqu'au bout de la bataille?
Alors, pas jusqu'au bout. Je suis resté d'octobre, où j'ai commencé avec les Kurdes, jusqu'à mi-juin. Et malheureusement, lors d'un incident assez bête, j'ai été blessé par des éclats d'un piège, enfin d'une arme piégée. Donc j'ai dû rentrer en France et je n'étais pas là pour assister et témoigner des 3 dernières semaines de la bataille de Mossoul. Voilà. Donc je n'ai pas pu... Le fantasme que j'avais, enfin c'est plus qu'un fantasme, pas l'espèce de but comme ça que j'avais et qu'on était plusieurs à avoir, dès le début de la bataille en novembre, quand je dis en fait c'était octobre, mais la rentrée dans l'Est de Mossoul, c'était de pouvoir assister à la prise de la mosquée Al-Nouri, là où Baghdadi avait fait son discours de confirmation du califat. Mais voilà, finalement je l'ai raté, comme Véronique Robert qui l'a raté, comme de toute façon on l'a tous raté puisqu'elle a été bombardée. Et ce monument... n'existait plus au moment où les quelques journalistes ont pu arriver jusqu'au centre, je ne sais pas comment on dit, le centre intime, le centre symbolique du vieux Mossoul, de Mossoul.
Vous avez écrit un texte assez touchant en hommage à Véronique Robert, justement, qui, une semaine ou quelques jours après votre blessure, elle et Stéphane Villeneuve et Bakhtiar Haddad ont été tués sur une mine. Est-ce que vous, ça vous fait forcément réfléchir encore plus que d'habitude sur la sécurité et l'avenir, votre avenir sur ce genre de terrain?
Non, ça ne me fait pas réfléchir plus parce que... Non, en revanche, j'avais pris la décision d'arrêter, je ne sais pas si je la tiendrai, mais a priori oui, d'arrêter de couvrir des zones de guerre, en tout cas des zones où les gens se tirent dessus, c'est ce que j'ai dit. En première ligne depuis déjà plusieurs mois et voilà, je changerai pas, j'ai toujours l'intention d'arrêter pour un temps, pour tout le temps, pour un temps, je sais pas, a priori tout le temps, d'arrêter de, voilà, et ça n'a rien à voir avec la mort de Véronique Robert, Bakhtiar Haddad et Stéphane Villeneuve, voilà, j'avais pris la décision avant et ça ne change rien et ça change pas mon regard non plus sur le danger, on sait qu'il est là, enfin on sait qu'il est là. On voit des mecs se faire tuer ou mourir tous les jours, il y a bien un moment où on se dit que ça va nous tomber dessus. Voilà, donc en essayant de ne pas être trop surpris. D'ailleurs, moi j'ai trouvé ça... Quand j'ai été blessé par ce type de l'armée, hein, c'est pas les forces spéciales, qui manipulait une Kalachnikov, qui probablement avait été piégée, c'est pas très clair encore, mais enfin la détonation, l'explosion qu'il y a eu dans cette salle, je sais que quand j'étais porté par Bakhtiar Haddad, et ensuite par le soldat irakien, je disais mais quel crétin, j'étais pas en train de hurler et d'appeler ma mère au secours, j'étais tout à fait et quand j'ai été blessé en 2011 assez grièvement de la même manière, une sorte de fatalisme, mais 2011 c'était mais pourquoi je me suis arrêté dans cette rue alors que ça tirait, et là c'était mais quel crétin, pourquoi est-ce qu'il a manipulé les forces spéciales, n'auraient jamais fait ça, mais quel crétin. Voilà. كان مقيد بباكستان يا ريت كل واحد فينا اعرج باسل كان نعمل من العاصمه سبع ابواب راحوا خلوا لك برنامج خواطر عشر اجزاء براسي اسماء لغراضي عدال شافوا لك نعيم الشيخ امام البيس جياب مش لزيد سواعد بس حابب نفسي ساعد واجرب كون مع الحق بنطلع كلامنا واعن سخيف بهالوقت لما اكون عادل وباوروبا اللاجئين بس حاقدين على المحارم. Il y a une photo dans votre exposition sur laquelle je vois beaucoup de gens s'arrêter, notamment sur la légende. On voit deux soldats qui regardent par une entrée et la légende dit ils seront tous deux tués par une voiture suicide l'instant d'après. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez me parler un peu des circonstances dans lesquelles vous avez pris cette photo?
Haider et un capitaine, c'est des gens très proches de moi, mais dans ces situations-là, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, les gens avec qui on est, amis, pas amis, définir la relation d'ailleurs ne sert pas à grand-chose. On est de fait avec très proches de gens pour des raisons pratiques de partage. Bien sûr, on dort la nuit dans la même maison cassée, bien sûr... On mange la même gamelle ou que sais-je, on passe du temps ensemble dans des situations compliquées. Donc une forme de relation se fabrique. Et en l'occurrence, ce jour-là, c'est un général qui presse le major d'avancer plus loin qu'il ne faut. Lui sait très bien comment protéger ses hommes. Et d'ailleurs, pour être exact, les seules préoccupations de ce major qui est au lead de l'avancée dans Mossoul, a vraiment, pour du vrai, deux préoccupations. C'est l'économie de la vie de ses hommes et l'économie des civils qui sont devant lui. Peu importe le temps que ça prendra, j'essaie de faire cette guerre avec ces deux principes, ce qui est très honorable et plutôt réussi. Et une grande surprise, Mossoul aurait pu être une catastrophe bien plus grande, bien pire que ce qu'elle n'a été. Il se fait que ce jour-là, un général le pousse à avancer un peu plus vite que prévu. On s'aperçoit qu'il n'y a pas le travail des bulldozers, de ces deux bulldozers qui nous précèdent et qui aussi servent à construire des talus pour empêcher les voitures suicides de venir vers nous, vers la colonne qui va nous suivre. N'a pas été fait, donc on se rend compte très vite qu'il y a un problème. On pousse les deux, trois journalistes qui venaient nous visiter ce jour-là et on rentre dans une cour. Moi, je sais que je suis derrière un mur et je vois Haider qui est très proche, Ce jour-là, il m'avait mis un gilet pare-balles sur le dos, j'en mets jamais. Il voulait absolument que j'ai un gilet pare-balles et je l'avais gardé du coup pour lui faire plaisir. Et je le vois ressortir, je fais une photo d'eux parce que c'est compliqué, je suis dans cette cour et donc je fais un peu des photos, le plus possible de photos que je peux. Ils sont dans mon cadre, tous les deux. Et en fait, ils sont en train de regarder la voiture suicide qui arrive et qui explose dans la seconde qui suit. Et bon, j'avoue que c'est un petit peu un hommage à des amis. Ouais.
La bataille de Mossoul dans l'objectif de trois photographes, c'était une émission d'Aurore Lartigue réalisée par Simon Decreuse pour l'Atelier des médias. L'Atelier des médias, un magazine proposé par Constance Léon, Marie-Stéphanie Servos, Camille Deloche, Simon Decreuse, Léo Caravagna et Ziad Malouf. Merci encore à Martial Obniche de Deuxième Bureau et à Anthony Ravera de RFI. Salut à toutes et à tous.